The Craft Project est un média engagé à faire grandir l'appétit pour les métiers d'art en donnant la parole à ceux qui les exercent. Un artisan d'art est un homme ou une femme qui choisit de faire apparaître de nouveaux objets sur la planète et consacre à cette tâche son corps, son âme et son esprit en mêlant la technique du virtuose, la malice de l'inventeur et la poésie du créateur. Professionnels des métiers d'art, étudiants, institutions, écoles, passionnés, au carrefour de tous les acteurs du secteur, nous écoutons, nous racontons, nous relayons, nous rassemblons. Nous sommes engagés pour montrer les métiers d'art tels que nous les vivons, exigeants, créatifs, innovants et désirables. Nous sommes engagés pour contribuer à ce que les métiers d'art soient plus souvent choisis, plus souvent transmis et plus souvent achetés. Nous sommes engagés parce que nous voulons résister à l'uniformisation du monde et que nous pensons que l'art de la matière est une arme pour faire à nouveau régner la beauté dans nos cités, dans nos vies et dans nos cœurs. Je suis Raphaëlle Lebeau et aujourd'hui, je vous invite à déambuler à mes côtés dans les allées du Salon Révélation 2022. Le Salon Révélation, c'est la Biennale des métiers d'art organisée par Atelier d'art de France. Avec le Covid, cela fait 3 ans qu'elle n'a pas eu lieu. Et il y a dans cette édition une atmosphère de fête. La fête de retrouver ses clients d'abord, de leur montrer le travail de ces 3 années empêchées. La fête de retrouver ses collègues aussi, comme on dit chez Atelier d'art. La fête pour moi enfin, de retrouver ou découvrir les auditeurs de ce podcast. C'est si abstrait de voir les milliers s'additionner sur une plateforme d'écoute. C'est si touchant de recevoir des témoignages en vrai pour dire que ces portraits vous accompagnent chaque jour à l'atelier et qu'ils vous font du bien. Voilà, je vous emmène faire la fête.
Ça, c'est une belle surprise qu'ils nous ont faite.
C'était pas prévu ?
Eh ben, c'est une proposition spontanée de dernière minute, juste quelques jours avant. Et vous voyez, Révélation, c'est aussi ça, c'est qu'il y a en fait une envie de chacun de venir partager ce qu'il sait faire et ce qu'il peut offrir aux autres. Et du coup, là, on a passé, je trouve que c'était magnifique, ce chant a cappella au milieu des œuvres, un moment inédit, quoi. C'est très touchant. Alors, je suis Aude Taon, je suis créatrice textile et présidente d'Atelier d'Art de France.
Alors, racontez-nous ce salon Révélation. C'est quoi le salon Révélation ? Qu'est-ce qui veut raconter au monde ce salon ?
Le salon Révélation est le salon dédié à la création par la matière et aux métiers d'art en particulier. Voilà, ce sont aussi des métiers d'art qui invitent à la table de la création par la matière. Et ce salon était un désir profond de la communauté, de retrouver aussi un temps où on était au centre de Paris, dans un lieu emblématique. Il y avait le salon des arts décoratifs qui mettait à l'honneur les métiers d'art. Et puis, on a eu une période de creux, de vide. Et donc, la profession aussi avait ce désir profond de revenir sur le devant de la scène, dans un lieu emblématique, qui était le Grand Palais à Paris, et de remettre à l'honneur nos métiers et leur dimension artistique.
Vous dites les professionnels, Atelier d'Art de France, c'est un syndicat professionnel. Et en fait, c'est pour ça que vous-même, présidente d'Atelier d'Art de France, vous êtes une professionnelle, vous êtes tous en exercice et c'est des professionnels qui œuvrent pour les professionnels.
Tout à fait. La particularité, en fait, c'est que nous sommes une chambre syndicale. Ça nous a permis, au fil des années, ancienne chambre syndicale, nous avons plus de 150 ans d'existence. Donc la fédération des professionnels a toujours été décisive pour être visible ensemble, pour nos petits ateliers qui sont très éclatés. Et donc c'est une force collective. Et puis nous avons une histoire avec aussi moi des prédécesseurs qui ont su mener atelier d'art et nous permettre d'avoir aussi les moyens pour soutenir le secteur, toujours veiller au développement économique. Ça, c'est dans notre ADN profonde, hein. C'était toujours permettre d'accéder au marché, voilà, et développer notre économie.
Oui, parce qu'en fait, vous le dites souvent, la priorité, c'est de vendre.
Le nerf de la guerre de nos ateliers, c'est de vivre de nos métiers. Et du coup, c'est aussi de trouver ces marchés qui sont des marchés de niche à échelle internationale. Révélation, du coup, fait partie de cette finalité profonde d'Atelier d'art. A été créée en 2013 avec, du coup, ce désir profond qui était réalisé de retrouver une place centrale à Paris, dans la capitale, en France. Un écrin à la hauteur de ce que méritent nos ateliers.
Alors c'est ça, donc dans cette idée de vendre et d'attirer des acheteurs, qui sont les acheteurs qui viennent à Révélation? Quel type de profil vous voulez attirer ici?
Alors c'est un salon ouvert au grand public. Ce public est fortement parisien. Nous accueillons aussi un public international qui maintenant connaît l'existence de notre salon de Révélation. Il y a des collectionneurs, des amateurs d'art dans ce grand public. Et puis, nous avons aussi des prescripteurs, hein, architectes, décorateurs, maisons de luxe, avec des directeurs artistiques qui viennent visiter le salon avec leur équipe et qui repèrent aussi les pépites et les talents de nos ateliers qu'ils viennent découvrir à Révélation. Et découvrir à Révélation en même temps que tout le monde, parce que les ateliers créent des pièces spécialement pour le salon. C'est ce qui en fait aussi l'émulation collective et la dynamique. Et là, nous étions depuis 3 ans, il y a eu 2 ans de coupure, de difficultés à rencontrer le public. Et donc il y avait une attente forte pour cette édition, de retrouver ces échanges, de retrouver le public. Et du coup, les ateliers se sont dépassés pour montrer le meilleur de la création de leur atelier et des pièces exceptionnelles. Alors moi, je cavale dans les allées, hein, parce qu'on accueille énormément d'officiels, d'institutionnels. Révélation réunit plus de 30 pays. Le continent a l'honneur, ce sont 15 pays africains qui sont mobilisés et qui présentent aussi des créateurs inconnus ou qui n'ont jamais en fait présenté leur travail à échelle internationale. Et je n'ai pas encore eu le temps de m'arrêter sur un stand pour aller en fait voir de manière profonde les œuvres, parce qu'en fait on a des appels de partout dans ce salon. Vous tournez le regard, tac, il y a une matière, une pièce, une ambiance de stand, une partie de banquet qui vous appelle. Voilà, c'est la particularité de nos métiers, c'est d'aller de rentrer au cœur de la matière et de ses œuvres. Alors pour l'instant je cavale un peu trop, mais j'aurai le temps en fin de salon d'aller à la rencontre de mes collègues et puis de découvrir surtout leur travail. Et
comme vous dites, c'est exactement ça. On se promène, on flâne et les objets appellent.
Et là, ça vous prend. Ouais. Et donc, hop, non, vous alliez dans l'allée centrale. Eh bien non, il faut faire un détour et s'arrêter là. Oui, tout à fait. On est happé par les œuvres. Il y a des appels, vraiment des appels forts. Et alors, ce qui est intéressant aussi, c'est ces échanges, parce que je crois ce qui rend aussi le salon si vivant, c'est qu'il y a aussi une joie des professionnels à échanger au niveau de notre profession, à nous retrouver. C'est aussi un lieu d'identité forte, de retrouvailles de la profession. Et c'est aussi un partage avec nos homologues à échelle internationale. Et ça, c'est formidable. Déjà, nous, en France, nous sommes des ateliers disséminés partout en France, sur le territoire national. Nous avons des rendez-vous réguliers avec Atelier d'art. Mais le salon, c'est aussi découvrir ce qu'a fait le collègue, c'est aussi échanger avec lui ce qui s'est passé pendant X mois, on ne s'est pas vu. Et là, on peut aussi mener ce dialogue avec nos homologues et qui ont aussi énormément de choses à nous apprendre, des matériaux travaillés très différents, des techniques extraordinaires que l'on découvre, et puis des histoires aussi à nous raconter, comment ils se forment chez eux, parce que la formation, c'est aussi des sujets hein, dont on parle beaucoup, de quoi ils vivent, quel marché ils atteignent. Et donc il y a énormément d'échanges, je crois, au sein du salon et entre exposants.
C'est vrai, et il y a un sentiment de famille dans les métiers d'art parce que ça reste un petit secteur et c'est vrai qu'on le voit, hein. Moi, ça a ouvert hier à 10h, ça fait 48h. Les gens sont là, les exposants se connaissent, ils exposent parfois depuis des années, il y a un accueil des petits nouveaux, on va voir les stands collectifs où on sait qu'il y a la jeune génération qui arrive, qui est accueillie par les anciens, et cet esprit familial des métiers d'art, on le sent vraiment dans les allées, et c'est ce qui fait aussi ce salon si joyeux.
Oui, nous représentons une communauté, ouais. Contrairement à ce qu'on peut entendre, il n'y a pas de division en fait. Hein. Nos ateliers sont fédérés et qu'ils travaillent dans la restauration, la création. En fait, nous avons les mêmes environnements de travail, les mêmes socles, les mêmes fondamentaux, l'atelier, soif de matière, de création d'outils, parce qu'on échange aussi beaucoup sur nos pratiques et avec quels outils. On se crée nous-mêmes les outils quand ils n'existent pas, on se donne des conseils. En fait, il y a toujours eu aussi des conseils entre nous. Et puis, ce souci d'accueillir la nouvelle génération, ça a toujours été Je pense que nos ateliers sont très ouverts. On a souvent parlé des secrets d'atelier, ce côté conservateur. Je ne crois pas du tout. Je crois, moi, au contraire, qu'on a soif de transmettre, soif de dire ce qu'on fait. Et là, avec le public, c'est ce qui se passe. Il y a énormément d'échanges. Personne n'est là à vouloir garder avidement son savoir-faire et accueillir cette nouvelle génération, c'est très important. Et là, Atelier d'Art de France le fait. Vous voyez, on a là le prix de la jeune création. Ils sont 4 créateurs. 2020, ils ont été coupés des salons. Donc, on a des lauréats de 2020, des lauréats de 2021. Et ce prix de la jeune création, il s'appelait le prix du stand gratuit et il a 60 ans d'existence. Donc, vous voyez, l'accueil des jeunes créateurs, c'était déjà... donner un pied à l'étrier à cette jeune génération, leur permettre de trouver leur marché et de se développer, parce qu'on sait tous qu'il faut du temps, c'est du temps long. Et si on peut faire gagner un peu de temps aux prochains professionnels, eh bien, on donne ça, on donne ces conseils.
Alors, on a une question traditionnelle à la fin du podcast qui est, on connaît une fée des métiers d'art, qu'est-ce qu'elle peut faire pour vous avec sa baguette magique ? Alors, je sais que c'est un peu vous aussi les fées, parce que vous faites beaucoup.
Eh bien, nous, je crois que les professionnels, nous assumons beaucoup. Les salons, les lieux de vente, l'accès au marché, l'économie, une maison d'édition, la construction du secteur. Une fée, ce qu'elle pourrait nous apporter, c'est que nous puissions un jour avoir aussi des pouvoirs publics qui nous aident à construire. Nous avons un socle auquel nous tenons, une définition des métiers d'art qui permettent de cadrer le secteur. Et une fois qu'il a été défini dans les années 2014-2016, ça a été vraiment une joie des professionnels. Mais aujourd'hui, le chemin est encore long. Nous n'avons pas de code d'activité unifié. Nous avons des codes qui ne disent rien sur nos métiers, qui nous laissent invisibles. Pour être fléché des politiques publiques, il faut pouvoir être identifié, compté. Et puis, nous n'avons pas de branche professionnelle, ce qui nous joue énormément de tours du point de vue de la formation, pour prendre part au débat, d'être consulté, concerté, et que les professionnels puissent donner aussi leurs propositions et leurs solutions sur ce terrain-là qu'ils connaissent très bien, dont ils se soucient, parce que c'est notre devenir.
Parce que c'est ça, sur la formation, le problème c'est qu'en fait les formations aux métiers d'art sont traitées de la même manière que des formations sur des métiers beaucoup moins précis et moins rares. Et du coup il y a des problèmes d'obtention, d'accréditation, de crédit et de fonds publics, c'est ça ?
Ça c'est du côté de la formation professionnelle. Aujourd'hui, ces centres de formation rencontrent des difficultés depuis la réforme de la loi Avenir Professionnel avec France Compétences, qui est l'opérateur qui est né dans cette réforme, qui applique des critères qui pour les métiers d'art n'ont pas de sens parce que nous sommes sur des critères d'employabilité entre guillemets. Or, beaucoup de personnes qui veulent se former, jeunes ou personnes en reconversion, il s'agit pour eux de créer leur atelier. Il faut savoir que notre secteur est composé à 86% d'entreprises individuelles. Et pour les manufactures ou les entreprises avec, ce sont des petites structures qui ont quelques salariés, et bien aussi des difficultés à recruter. Et donc aujourd'hui, on voit bien que du côté de la formation professionnelle, ces critères sont en décalage. Elles ne reçoivent pas d'agrément pour leur la certification et du coup avec des formations diplômantes. Voilà. Et le résultat, c'est qu'après, elles peuvent perdre leur financement en région, leur financeur, et après, on n'a plus de formation. Alors, on a déjà subi une disparition des formations. Le monde du luxe, lui, a trouvé des solutions parce qu'il crée aussi ses propres centres de formation. Mais on a besoin, en fait, d'un système, un dispositif général sur la formation pour pérenniser nos savoir-faire et à partir de l'identité profonde du secteur, c'est-à-dire nous ne sommes pas le design, nous n'avons rien contre le design, mais nous sommes différents. C'est un secteur aussi de création et dont la démarche est très différente. Nous avons besoin d'apprendre par la matière et de créer par la matière. Et pour cela, il faut donner les moyens à ces jeunes, à ces personnes, de bénéficier de formations longues et puis de découvrir la matière, c'est-à-dire se frotter à la matière, apprendre à l'écouter, à la connaître, avoir les outils adaptés, plus tout le reste de ce que demande en fait une entreprise, la gestion, la communication. Et ça, c'est les fondamentaux, c'est quand même autour du savoir-faire et du métier, cette vision de métier. Donc des formations qui professionnalisent et qui aident à trouver sa place dans le monde professionnel et atteindre les marchés.
Voilà, donc pour ça, il faut plus d'intérêt et d'investissement des pouvoirs publics pour notre secteur.
Oui, il faut que l'État se réengage sur ce sujet de la formation, avec une formation qui soit adaptée. Il y a aussi, je pense, un besoin d'apporter de la connaissance sur nos métiers. Révélation permet de faire connaître, de faire comprendre. On a obtenu d'ailleurs des lois juste après la tenue de l'édition. Je crois que la première édition de Révélation avait permis aussi au pouvoir public de comprendre la dimension de création artistique grâce à Révélation. Vous voyez, donc ça, c'est aussi une manifestation comme Révélation qui permet de faire comprendre ce que sont nos métiers et puis d'obtenir l'écoute attentive. Et puis nous, Atelier d'Art, nous veillons, produisons révision des rapports, des dossiers techniques. Et notre rôle aussi est de pouvoir fournir la connaissance au pouvoir public en charge.
Merci beaucoup. Il y a un sentiment de fête dans ce salon. C'est vraiment la joie de se retrouver après plusieurs années d'annulation. C'est très, très joyeux, très souriant. Il y a beaucoup de monde au vernissage. J'ai vraiment l'impression que tout le monde des métiers d'art est réuni ce soir. Le plaisir d'avoir un salon parisien. Il y a les fondations, il y a les associations, il y a les ateliers, il y a les groupements d'ateliers. Bonjour Louis Biron.
Bonjour.
Alors Louis Biron, vous êtes lauréat du prix de la jeune création Atelier d'art de France.
Oui, exactement.
Et là, on est sur un stand qui présente les œuvres de différents lauréats, c'est ça? Racontez-moi.
Complètement. C'est le stand du prix de la jeune création métier d'art de l'année 2020 et 2021. Donc les deux années ont été regroupées. Et donc du coup, ça présente l'ensemble des œuvres des lauréats.
Alors, décrivez-nous votre travail. Donc.
Alors, mon travail, c'est un travail de ciselure. C'est, bon, du coup, moi, je me présente en tant qu'artiste plasticien. Et mon savoir-faire principal, c'est donc la ciselure. Donc la ciselure, ça se définit comme l'ornementation et la déformation du métal, la sculpture du métal. Et donc, le projet que je présente aujourd'hui, c'est un projet qui se nomme Fossiles et qui présente les fossiles de notre civilisation industrielle d'aujourd'hui pour interroger l'héritage qu'on va laisser aux futures générations. Donc, il y a un travail de patine qui permet de retrouver les couleurs des fossiles avec des pierres un peu calcaires, des pierres qu'on appelle la pierre de l'échaillon, qui est une pierre qui vient de ma région. Donc, c'est une pierre qui tire sur du blanc, du gris et un peu du jaune. Et il y a un travail de ciselure en termes de tracématie, de pose de mat, de repoussé, de volume. Donc, travail de ciselure sur plaques laminées, donc des plaques de laiton plate, et aussi du travail de ciselure sur des pièces qui sont fondues. Donc, ce projet-là, il a plusieurs temporalités, parce qu'il va nous placer du point de vue du légataire au présent. Donc, qu'est-ce qu'on va léguer aux futures générations? Et il va nous placer du point de vue du futur, parce qu'en fait, il nous invite à découvrir ces fossiles dans un futur post-apocalyptique, où le monde s'est effondré, donc à se mettre à la place des derniers hommes sur Terre.
Sympa.
Ouais. Et le but, c'est de savoir comment ils vont découvrir ces fossiles et comment ils vont les interpréter.
Et comment les métiers d'art nous permettent de laisser une trace, justement?
Complètement. Et comment on exprime aujourd'hui les métiers d'art, et sur quel médium, quel support? Et moi, je trouve ça hyper intéressant, justement, d'avoir plusieurs catégories qui sont nommées donc dans ce prix de la jeune création. Il y a la catégorie œuvre d'art, et je trouve ça hyper intéressant de montrer que les métiers d'art peuvent aussi s'exprimer à travers les arts de manière générale, les arts plastiques, et que ce n'est pas forcément que dans l'objet décoratif utilitaire et qu'il y a d'autres fonctions, d'autres secteurs. J'aime bien que les cases ne soient pas si prédéfinies, c'est intéressant. J'ai des processus qu'on appelle des processus de création de bio-intégration, donc du coup j'intègre le vivant au sein de mes processus, puisque la nature crée l'œuvre avec moi. Et ce qui m'intéresse, c'est la manière dont la nature va altérer le sujet de la représentation et donc du coup signifier certaines aberrations dans nos modes de vie d'aujourd'hui. Donc j'ai des processus de création qui font appel à des vers de terre, donc qui me permettent de restructurer les objets. Donc le principe, c'est de décliner l'objet de l'investigation comme un vivarium. À l'intérieur de ce vivarium, je vais mettre un substrat qui est nourricier, qui a aussi d'autres propriétés, telles que le fait de conserver de l'humidité. Ce processus, il intègre une phase où j'extrais les vers de terre du vivarium. Ensuite, je peux mouler les galeries. Ce moulage, je peux l'envoyer en fonderie, obtenir un tirage en brut que je viens ciseler et ensuite patiner à chaud. Donc ça, c'est le principe structurant. Et ensuite, il y a le principe graphique. Et là, je collabore avec toute la famille des mollusques. Donc, c'est la famille de limaces ou des escargots. Et c'est le fait qu'ils ont un pied porteur. Et ce pied porteur me permet d'étaler des colorants naturels sur l'objet que j'ai ciselé. Et en fait, cette empreinte-là, moi, je la traduis sous forme de fissure. Et la fissure est le symbole, le manifeste de qu'est-ce qui va pas dans la pièce.
Bon, c'est impossible en 5 minutes. Il faut que je vienne vous écouter parce que c'est passionnant et surtout c'est intéressant de voir que votre démarche artistique ne pourrait pas s'exprimer si vous maîtrisiez pas vous-même une technique.
Complètement, complètement. Pour moi, ce qui est hyper important, c'est que la ciselure puisse immortaliser l'empreinte du vivant et manifester l'empreinte du vivant de son expression, que ça puisse être dans la continuité. Et ça cultive une certaine part d'aléatoire, de lâcher prise, d'expérimenter l'abandon, parce qu'en fait, je suis plus maître total de l'œuvre. Et en fait, vu que je suis dans des processus de co-création, de collaboration, rien qu'en termes d'application de la ciselure, je suis obligé de repenser la ciselure de cette manière. Et la ciselure n'est pas exprimée de manière traditionnelle sur les objets, notamment dans les étapes, on va dire, traditionnelles de ciselure. Je suis obligé de remodeler, de rephaser tout ça pour essayer de...
Oui, vous réinventez également le savoir-faire, en fait.
Oui, complètement.
Merci, Louis Biron.
Avec grand plaisir. Merci à vous.
Bonjour Jacques Rey.
Bonjour.
Vous êtes directeur des partenariats de la Fondation Michelangelo. Donc on se croise là dans les allées du Salon Révélation. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce salon ?
Écoutez, je trouve qu'il y a énormément de choses qui sont dynamiques. Et que je trouve qu'il y a une onde sur Révélation qui est tout à fait intéressante. Alors il y a l'effet Grand Palais éphémère, il y a un nouveau lieu, c'est important. Mais je crois qu'en termes aussi de sélection, de dynamique, de créativité, je trouve qu'il y a pas mal de choses intéressantes. Et nous, comme on est toujours intéressés par ce qui est beau et bien fait, ben on est là et on regarde. On fait un peu nos courses, quelque part.
Vos courses pour la prochaine édition Homo Faber ?
On est toujours attentif à ce qui va se passer. Bon, la prochaine édition, on verra. On parle de 2024. Il nous faut bâtir les choses, il nous faut le thème, il nous faut pas mal de concepts encore à cadrer pour voir comment on va et où on va.
Oui, parce que là, pour ceux qui nous écoutent, on sort d'Homo Faber 2022. Donc la prochaine édition aura lieu en 2024, mais vous venez d'atterrir de cet Homo Faber 2022.
Oui, il y a eu un mois qui était formidable, où finalement, le fait d'être en même temps que la Biennale d'art contemporain, qui était surprenant pour nous, s'est révélé être une très bonne chose, parce qu'il y avait des collectionneurs de Biennale d'art contemporain qui ont entendu parler de Homo Faber, qui ont pris leur petit bateau, qui sont allés sur l'île de San Giorgio Maggiore, et puis qui ont vu des très belles choses, qui en ont parlé aux autres. Donc du coup, c'était très très bien, ça a donné une notoriété supplémentaire. Et je crois qu'il y a eu des ventes pour les artisans, ce qui est au bout du bout notre mission première. Les fondateurs nous disent, il faut valoriser les artisans pour qu'ils vendent plus, mieux, et ils en ont besoin.
Je le confirme, il y a eu des ventes pour les artisans.
Super. Bon, bah, tant mieux.
Merci Jacques Rey.
Super Raphaël, à bientôt.
Bonjour Pauline Goldzahl.
Bonjour Raphaël.
Vous êtes la directrice de l'atelier Lison de Cône.
Et la fille de Lison de Cône aussi.
Vous avez fait une œuvre avec l'atelier pour le Salon Révélation qui est assez spectaculaire. Est-ce que vous pourriez nous la décrire ?
Alors, c'est vraiment Lison qui a fait cette pièce de A à Z. L'idée, c'était de faire quelque chose, en effet, d'assez spectaculaire et surtout d'aller utiliser et d'aller fouiller dans des années et des années de paille qu'on a à l'atelier, qui, je pense, est un peu notre force, et donc de pouvoir trouver des couleurs assez inédites et de pouvoir créer donc ce dégradé dans le motif.
Cette œuvre, elle raconte une maîtrise absolue de la couleur.
De la couleur, exactement. Parce que là, il n'y a pas de motif très spectaculaire. Il n'y a pas vraiment de mélange de matières comme on a l'habitude de le présenter depuis quelques années. C'est vraiment la couleur et c'est dans la recherche, en fait. Normalement, on ne trie jamais la paille. Donc, on travaille avec une couleur de marqueterie, une couleur de paille qu'on ne trie pas. Et c'est ça qui fait la beauté parce que chaque brin a une teinte différente. Mais ici, on a trié et on a sélectionné chaque brin de paille pour créer ce dégradé. Donc, des noirs dans les bleus, dans les... orangé, violet, derrière il y a des verts. C'est vraiment.
Et la pièce fait 2,20 m de hauteur.
Oui, elle est très haute. Elle ne rentrait même pas dans notre atelier debout.
Ben comment vous avez fait alors ?
Bon, de toute façon, Lison a travaillé avec le totem allongé et on le mettait dans notre hall d'entrée quand il fallait qu'on le mette debout.
Merci Pauline.
De rien.
Je suis sur le stand de Steven Leprisé, enfin d'Arca Ébénisterie, parce qu'aujourd'hui Steven, ça doit être, on va lui demander, mais je pense au moins une dizaine de personnes. Donc c'est plus simplement Steven, c'est Arca Ébénisterie qui est un des rendez-vous importants maintenant quand on arrive à Révélation parce qu'il a toujours des stands spectaculaires et il est très demandé. Donc je fais la queue et pendant que je fais la queue, j'essaye de vous raconter un petit peu donc ce stand où on a une moto entièrement couverte de son bois lamé. Alors il va nous expliquer avec un bois gonflable aussi puisque je vois que le siège, il vient d'activer un bouton, se gonfle quand il appuie dessus. Je vois son bois souple à l'arrière avec une étagère bibliothèque dans laquelle les objets s'insèrent. Je vois le sac Kelly d'Hermès qu'Arca a réalisé l'année dernière en 200 exemplaires. C'est joli et c'est toujours émouvant. Depuis le podcast il y a 3 ans où ils étaient 5 à l'atelier, il était déjà très en route, hein. Et ben voilà, 3 ans plus tard, Steven Leprisé est un homme d'affaires, un artisan, un ébéniste, un manager, toujours un prof à l'école Boulle, un homme extrêmement généreux, investi pour les métiers d'art et investi pour son savoir-faire. Bonjour Gaëtan.
Bonjour.
Alors en attendant que Steven ait l'amabilité de venir nous parler, c'est comment l'ambiance chez Arca en ce moment ? Parce que Gaëtan, vous êtes quoi vous chez Arca ?
Alors moi je suis designer chez Arca, j'ai intégré l'entreprise il y a 2 ans à peu près, enfin ça fait plus longtemps que je travaille avec Steven. L'ambiance est assez géniale puisqu'on a une équipe qui est assez folle et énormément de complicité entre les membres de l'équipe. Ces derniers temps, c'était beaucoup le rush avec les projets qui étaient à sortir justement pour Révélation, mais justement avec cette facilité d'ambiance et toute l'entente qu'on a entre nous, on a réussi à pousser les projets encore plus loin que ce qu'on imaginait et à aller encore plus dans les finitions sur tous les projets.
Et un designer intégré dans un atelier d'ébénisterie, comment il trouve sa place ?
En faisant un peu de tout. J'ai un poste qui est assez polyvalent. Je travaille au niveau du bureau d'études, à la conception, l'idéation et la relation un petit peu de gestion sur les projets. Mais après aussi sur toute la partie développement de projet, ingénierie, donc comment rendre les idées esthétiques réalisables, faire la passerelle avec la fabrication et le développement du produit en interne dans l'entreprise.
C'est un rôle autant créatif que technique.
Oui, mais aussi sur de la prod, vu que je passe régulièrement en atelier pour pousser les pièces en sortie, faire en sorte que les choses s'agencent de la bonne manière et essayer de suivre le projet du début jusqu'à la fin. C'est ça qui est le plus intéressant.
Merci Gaëtan. Bonjour Steven Leprisé.
Bonjour Raphaël.
Comment ça va 3 ans après, depuis le dernier Révélation ?
C'est ce que je disais tout à l'heure à un visiteur, c'est qu'il y a 3 ans, pile poil, avant Révélation, 2 jours avant, on livrait la toute première maquette du Kellywood à Hermès. Ça qui est dingue, c'est que en fait, on était en pleine charrette de Révélation et on nous appelle pendant la charrette en lui disant « Ah bah dans 2 jours, il nous faut une maquette, machin ». Et donc ce pari qu'on avait fait sans les prévenir de faire une maquette en bois larmé, ça me rappelle ces moments-là, quoi.
Donc sans les prévenir, vous avez fait cette proposition d'un sac Kelly en bois larmé. Racontez-nous la matière bois larmé.
C'est une manière de faire de la marqueterie, de donner l'illusion d'une incrustation. Enfin, c'est pas l'illusion, c'est vraiment de l'incrustation, mais qui se fait par le dessous, par pression. On vient superposer des feuilles de plaquage plutôt sombres, les bois, sur des grilles. Alors ça peut être des grilles en impression 3D, ça peut être en laiton, cuivre, aluminium, des non-ferreux en tout cas. Cette matière, en ponçant le bois, on vient percer le bois, qui est normalement un défaut du bois. On vient traverser, donc attraper les aspérités de la grille. Alors ça peut être très régulier, comme sur le Kellywood, où vraiment les larmes sont dimensionnées. On doit ni les faire trop petites ni trop grosses, sinon le sac est refusé. Tout comme on peut faire des dégradés. La larme peut arriver en dégradé, arriver quasiment à zéro et grossir. Ce qui peut donner une impression d'aléatoire assez jolie également. Et en plus d'être beau... Tu vois, je suis humble. Hein. En plus d'être beau, ça renforce le bois. C'est-à-dire qu'il est quand même beaucoup plus résistant au choc. Donc, c'est très approprié pour un sac à main, pour des carénages de moto, comme on le voit là.
Alors justement, comme on le voit là, c'est cette moto qui nous raconte à la fois le bois larmé et le bois gonflable, toutes les matières que vous avez inventées chez Arca.
Et le bois thermoformable. On arrive à combiner le bois larmé en le mettant sur du bois thermoformable. Donc, ces carénages, en fait, ils sont usinés à plat comme un patronage textile. Donc, très facile à refaire en découpant dans des feuilles la forme développée de nos carénages, si jamais on tombe. C'est en plus renforcé parce qu'il y a ce métal à l'intérieur, ça résiste très bien à la chaleur, ça bouge pas. Et puis on a ce siège qui apparaît pour 2 choses. Pour que quand la moto soit éteinte, on garde une ligne dynamique, donc un respect du design, puisqu'on a co-designé cette pièce avec un ami qui s'appelle Alban Jaunet, qui a fondé une petite entreprise de préparation moto qui s'appelle Bamb Motorcycle. C'est un super copain avec qui on fait de la piste, fait de la moto. Tous les gars chez Arca font de la moto, ou presque, on est tous passionnés de moto. Donc comment combiner sa passion, les amis, l'équipe, ses innovations, ce petit rêve fou de faire cette moto ensemble, c'était un peu évident. Donc on l'a acheté il y a 3 ans, je crois juste après le Révélation en 2017. Et puis on a fait scanner la moto, Alban a designé, il y a eu des allers-retours entre lui et nous parce que tout n'était pas possible. Et puis là, il y avait ce challenge de dire, faut qu'on fasse un truc dingue. Faut qu'il y ait une petite fonction en plus en faisant apparaître ce siège. Voilà. Il peut aussi, du coup, nous permettre de régler la position de conduite en réglant sa hauteur.
Et ça va être la star Instagram du Salon Révélation.
Et c'est cool. Il y a plein de pièces dessus qu'on a imprimées en 3D pour des supports, des transitions de pièces. Même le radiateur, on l'a fabriqué sur mesure. On a seulement fait faire le pot d'échappement. Tout le reste, on a fait. Donc il y a plein de petites pièces imprimées, relaquées. On a relaqué des pièces de moteur pour qu'elles soient vraiment en black, full black, on dit sur les motos, que tout soit noir. Mais elles veulent presque la star aux autres créas, en fait, parce que je trouve que par rapport à d'autres années, on a fait de gros efforts en termes de créa sur les autres pièces. Moi, je suis vraiment fan des hôtes aussi. On a passé tellement d'heures sur cette moto que je mange.
Mais elle est spectaculaire.
Elle est spectaculaire. J'ai même pas eu la chance de la conduire parce que j'étais au Symposium des lauréats.
Symposium des lauréats de la Fondation Bettencourt.
Et puis, on a aussi ce petit tabouret là-bas qui est tout mignon, qui est fait en bois thermoformable avec un designer qui s'appelle Jörg Gessner. On a fait un petit puzzle qui est là-bas. Bah, j'invite tous les spécialistes à comprendre comment on a fait. Parce qu'il a l'air de rien, mais en fait, il y a un raccord de veinage avec un usinage de même pas 2/10. Donc là, bonne chance pour trouver et bonne chance pour faire le puzzle aussi parce qu'il n'est pas simple. On a refait un mur en bois souple, on en fait souvent. Mais cette fois-ci, on a pris un bois un peu plus marqué parce qu'on a remarqué qu'on était trop timide chez Arca, qu'on souvent prenait des bois un peu soft. Là, on a pris un bois qui vraiment, on voit bien le Tineo là, a des veines très marquées et ça exacerbe bien les mouvements. Et puis il a un cœur en marbre. Pour la première fois, on a fait un intérieur en marbre et vraiment son cœur fondant là vient faire une coulure de marbre au sol. Puis surtout, moi, je suis fan du surréalisme. Et voilà, il y a cette connexion forcément au surréalisme.
On a comme une flaque de marbre au pied de ce mur souple.
Flaque de marbre qui accueille le panneau. Ce panneau, il est complètement en biais, comme s'il coulait. Hein. Puis ça permet de le lester. Il est un peu plus accueillant parce qu'il est incliné. Et puis ça évite de fixer le projet au mur, quoi. Donc pour les expos ou même pour la vente, c'est un peu plus intéressant. Et bah, ces dernières années, j'essaie aussi de réfléchir comme ça. J'ai beaucoup réfléchi performance technique jusque-là. Et j'essaie de réfléchir un peu plus. Bon, bah maintenant, il faut les vendre, les performances techniques. Donc voilà, on essaye de...
De travailler l'usage. Et alors, vous continuez à être prof à Boulle ?
Oui.
Vous continuez à être investi dans les métiers d'art ?
Bah oui, à fond. C'est passionnant parce que, bon, évidemment, j'ai la chance d'avoir une super équipe, un bel atelier qu'on est en train de faire évoluer encore. Là, on vient d'acheter un robot d'usinage 5-axe. Et il y a cette implication dans les métiers d'art aussi pour la formation. Ce que j'ai de plus important, c'est d'injecter en fait cette énergie, cette motivation, cette passion, ce savoir aux jeunes. Et c'est ce qu'on s'efforce de faire avec mes collègues à l'école, Fabrice, Camille, Quentin, Guillaume, etc. On essaye de leur injecter cette énergie, cette passion, ce goût du défi, cette vision en éventail qui permet d'aller faire n'importe quoi. À chaque fois qu'on commence un projet chez Arca, c'est page blanche et on ne fait pas de série. Alors c'est mauvais pour le business de ne pas concevoir les choses en série, mais c'est passionnant.
Mais il va bien le business quand même, j'ai l'impression.
Oui, chez nous ça va. On sait des mois à l'avance ce qu'on va faire. On sort aussi d'un énorme projet en Suisse là. On a fait 2 plafonds monumentaux en Suisse qui nous ont un peu éreintés, Gaëtan, moi et le reste de l'équipe, parce que ça a été stressant, ça a été beaucoup de préparation avec AW2. Ce projet-là qui est vraiment, enfin, c'est assez indescriptible, on pourrait faire un podcast que là-dessus. Hein.
On le fera, mais moi là j'ai 150 exposants à aller voir, Steven. Bonjour, qu'est-ce que vous nous présentez sur votre stand aujourd'hui ?
Alors nous présentons des artistes qui travaillent dans la fondation Jean-Félicien Gacha au Cameroun. Les ateliers que nous représentons ici sont l'atelier de perlage et de métallurgie. C'est des arts en fait ancestraux qui existent sur le territoire camerounais depuis des milliers d'années et que nous souhaitons à travers en fait cette fondation pérenniser et transmettre aussi. Donc ici vous pouvez voir par exemple une calebasse, une sorte de courge séchée qui a été complètement perlée, tissée à la main et représentant aussi des symboles du textile ndop qui est un textile royal camerounais bamileke.
Pour la transmission des savoir-faire, concrètement quelles actions vous avez mises en place ?
Alors concrètement, la Fondation Jean-Félicien Gacha, comme je vous dis, a des ateliers en fait avec un maître d'atelier qui transmet du coup son savoir-faire à des élèves. Par ailleurs, il y a aussi des écoles qui ont été ouvertes pour les enfants. Il y a aussi des actions culturelles qui sont faites sur place, comme par exemple des conférences, des ateliers, des démonstrations, etc. À travers l'atelier menuiserie, par exemple, il y a plusieurs commandes qui peuvent être faites et puis aussi des structures qui sont créées sur place.
D'accord, c'est pas mal. Merci beaucoup. Bonjour Pierre Reverdy.
Bonjour. Qu'est-ce que vous nous montrez aujourd'hui? Nous sommes sur le stand des maîtres d'art et de leurs élèves au Salon Révélation. Donc c'est un stand collectif que l'Association des maîtres d'art finance, j'imagine?
Oui.
Donc racontez-nous ce que vous montrez aujourd'hui.
Alors Révélation se veut un salon où la prospective a de la place. Donc cette année, avec Nicole, mon épouse, on présente une pièce qui s'appelle Co, qui sort de l'habitude de ce qu'on connaît de moi, qui sont les couteaux ou les sculptures coutelières.
Parce que vous êtes coutelier, vous, au départ?
Là, on laisse parler la matière. Et la destination de la matière, elle est autre. Et là, c'est des pièces sculpturales. Donc, il y a une pièce co où il y a un damas mosaïque en damier et une partie en argent pur émaillé. Et deux pièces qui sont... une, c'est Météare. Météare, c'est l'idée, c'est une météorite qui percute des blocs d'acier et qui les soude. Puisque tout mon travail, c'est la soudure. La soudure d'une pièce avec une autre pièce. Ça, c'est le tout début. Je l'ai sophistiqué énormément. Et puis là, je reviens à trois pièces qui sont plus des sculptures. Et Météare, c'est un acier extraordinaire qui vient du fin fond de l'univers. Ça, c'est une vraie météorite. Incroyable. Qui est tombée à 6 côtés à Line.
Donc là, elle fait 3 cm par 2 cm à peu près.
Voilà, et on retrouve l'éclat. Et ce qui est très difficile, en fait, dans les créations, c'est de retrouver la nature, c'est-à-dire le côté naturel, le côté comme si on trouvait un bout d'acier par terre en se baladant dans la forêt, et comme on trouve un bout de bois, ben on trouve que c'est beau, mais parce qu'il a toute une histoire, et c'est très très difficile, quand on travaille la matière, de recréer du naturel, en fait, ce que les Japonais appellent wabi-sabi, avec aussi le naturel de la création, c'est-à-dire que quand on crée, il faut avoir ce côté naturel, brut, mais... On triche parce qu'on fabrique du naturel. C'est une des particularités de ces deux sculptures. Cette sculpture à droite, qui est en acier feuilleté, donc l'acier de départ, c'est des couches très fines d'acier que je vais souder. Donc il y a toujours la soudure. Et après, la matière prend sa place, je la pousse à fond, je la déchire, je la ressoude, je la pousse dans ses retranchements. Toujours pareil pour arriver à retrouver ce côté naturel, une texture... faire parler la matière dans ce qu'elle a de très naturel.
Merci Pierre Verdi. Bonjour Aline HD.
Bonjour Raphaël.
C'est pas comme d'habitude ce que vous présentez aujourd'hui sur le stand de la Fondation Banque Populaire?
Oui, effectivement, j'ai voulu quelque chose de complètement différent pour ce salon Révélation 2022. Alors, une superposition de couleurs, superposition de papier, un peu plus de simplicité, mais de sophistication dans le système, dans la technique.
Et c'est aussi une démarche un peu plus artistique, peut-être?
Exactement. Voilà, donc je cherche, durant cette année, à me consacrer un peu plus de temps, développer des pièces personnelles, des pièces pour des galeries et pour des architectes également.
Eh ben, bonne route là-dedans.
Merci beaucoup.
Il y a des réformes en cours. Je pense qu'il faut qu'on puisse faire un état de ces réformes, débattre et que chaque acteur puisse aussi dire ce qu'il y trouve. Tout simplement, et notre but, c'est d'assurer le devenir de nos professions, permettre à la jeune génération de trouver sa place, parce que c'est difficile, en fait, trouver son économie. Nous, on est acteurs, on porte des événements comme ceci pour leur permettre d'atteindre leur marché ou des concours, comme on s'est retrouvé il y a quelques jours. Mais... voyez, c'est
une vraie politique, c'est une vraie politique volontariste. Il faut être super volontariste et déterminé, ça c'est sûr.
Là, il y a aussi un message où on espère encore qu'il y a cette écoute et c'est possible. Voilà.
En plus, on a quand même la chance, on a des travaux parlementaires. On est d'accord, pas d'accord avec toutes les propositions, peu importe, j'ai envie de dire. Mais il y a au moins des travaux parlementaires sur la question, ce qui veut dire qu'il y a des parlementaires qui s'y intéressent, qui continuent à s'interroger sur la meilleure façon de concevoir les choses pour porter une vraie politique nationale de soutien à ces métiers et à ces filières. Et nous, en tout cas, Mobilier National, notre rôle, c'est d'être là encore en soutien notamment au secteur privé, aux activités des artisans, artistes, techniciens d'art, quel que soit leur statut, et il y en a beaucoup des statuts, voilà, c'est bien peut-être une des difficultés de la chose.
C'est une des difficultés, voilà. Même mais sans code d'activité, de les identifier.
Et de les soutenir, nous, j'ai envie de dire, quelles que soient les étiquettes, nous, vraiment, moi, en tout cas, on se positionne comme étant un soutien à ce secteur et à ce domaine d'activité qui est un domaine de création, ce que vous avez dit tout à l'heure, Aude, hein, à la fois d'activité économique, bien sûr, et de création et de transmission de valeurs aussi, qui sont essentielles à l'heure actuelle.
Oui,
Je suis ravie. Voilà. J'ai surpris une conversation entre Aude Taon, directrice Atelier d'Art de France, et Hervé Lemoine du Mobilier National. Donc j'ai glissé mon micro entre deux pendant qu'ils étaient en train de parler, et c'est cette conversation que nous venons de surprendre.
Il y a cette dimension-là, mais on ne veut pas être qu'un conservatoire de savoir-faire. Et je ne veux surtout pas que nous soyons un musée. On est un lieu d'expérimentation, de recherche, ouvert à la création, et en essayant toujours de concilier, de marier la tradition de certains savoir-faire et leur incarnation dans le temps présent avec les artistes, les artisans et les créateurs du temps présent. Donc vraiment, moi, c'est très clair. On n'est pas du tout un musée. Voilà. On ne travaille pas à ça. On travaille avec des musées, mais ce n'est pas notre mission.
Combien de professionnels qui travaillent
300. On a 300 personnes qui travaillent de leurs mains dans nos ateliers. Donc, et sur ces 300 personnes, il y en a 120 qui travaillent surtout sur des métiers de la restauration et 180 de la création. Donc, c'est pour ça qu'il n'y a pas une image du tout. Non, moi, je ne veux pas du tout. On n'est pas un musée des arts décoratifs. On n'a pas cette vocation-là. Il faut qu'on soit en prise avec la réalité, y compris d'ailleurs pour percevoir les difficultés de la réalité, c'est-à-dire la difficulté d'exercer ce type de métier ou de passion ou de mission dans notre pays. Et nous, on doit aider. C'est là où notre mission de service public, c'est le soutien. C'est soutenir les autres.
Bonjour Romain Jouffre.
Bonjour.
Nous, on est très, très fans de votre papa qui est notre président. Donc, c'est en toute subjectivité qu'on vient vous voir aujourd'hui pour que vous nous racontiez un peu où en est l'aventure par excellence que vous portez aux États-Unis pour raconter et envoyer et propulser les métiers d'art sur le marché américain. Comment ça va ?
Tout va bien, très heureux d'être à Révélation. Bah, en réalité, c'est pas forcément moi qui porte par excellence, c'est vraiment Guillaume. En tout cas, l'aventure continue de bien se développer, de bien se dérouler avec de nouveaux partenaires qui nous ont rejoints encore cette année. Et un showroom qui est en train d'être complètement rénové avec un grand designer américain qui s'appelle Thomas Fezen, qui est installé à Washington. Et l'aventure continue, on est très contents.
Et alors vous, vous avez fondé par excellence. En fait, c'est un groupement d'artisans d'art français et vous êtes regroupés pour mutualiser vos efforts pour conquérir ce marché. Et alors, justement, en tant que patron, parce que vous, vous dirigez les ateliers Jouffre aux États-Unis, le marché américain, il aime toujours autant les métiers d'art français ?
Il aime toujours autant, il raffole des métiers d'art français, il raffole des belles entreprises françaises. Donc, il y a vraiment un marché qui est hyper intéressant. Nous, Jouffre, ça se développe très fort. Mais je crois que l'ensemble des partenaires de Par Excellence, franchement, sont tous en fort développement aux États-Unis. Donc, effectivement, c'est un marché qui est toujours aussi important. New York, bien sûr, qui est le marché, on va dire, qui tire l'ensemble du pays. Mais voilà, on a maintenant des clients à San Francisco, à Los Angeles, on fait des projets un peu aux quatre coins du pays, donc c'est vraiment une belle aventure.
Et vous avez un atelier sur place aux États-Unis, à New York, à Brooklyn même?
Exactement, alors il n'est pas à Brooklyn, il est dans le quartier qui s'appelle Long Island City, ça fait partie du Queens, donc c'est au nord-est de Manhattan, et on a un atelier, on a déménagé dans un nouvel atelier en août dernier, et on a à peu près maintenant 2000 mètres carrés d'atelier et 37 artisans, donc c'est fantastique.
Et vous formez des artisans américains?
On forme des artisans américains. Alors souvent, à New York, c'est tellement cosmopolite que c'est...
Oui, américain, ça veut rien dire, en fait.
Ça veut rien dire, exactement. Mais ils sont américains. Ils ont évidemment toujours des papiers américains, des green cards, etc. Mais c'est une équipe hyper internationale. Sur 37, on a 17 nationalités. Et évidemment, sur les métiers de la couture et les métiers de la tapisserie, c'est beaucoup de gens qui viennent d'Amérique centrale. On a Guatemala, Mexique, République dominicaine, Colombie. Donc voilà. Et on forme, effectivement, on essaye un petit peu. Alors on a la chance d'avoir beaucoup d'artisans tapissiers confirmés qui ont fait leur gamme dans d'autres ateliers new-yorkais. Par exemple, en ce moment, on a trois personnes, Jessica, Aude et Lily. Lily qui est française, Aude qui est française mais qui est installée avec son mari à New York, et Jessica qui, elle, est américaine et qui, eux, sont vraiment en tant qu'apprentis chez nous et qui se forment au contact de nos tapissiers plus expérimentés.
Ça transmet. Et est-ce que parfois le style des artisans que vous recrutez avec ses origines Amérique centrale, Amérique du Sud, va influencer les artisans de les ateliers lyonnais ?
Pour le moment,
ça marche dans les deux sens.
Ouais, ça marche dans les deux sens. Pour le moment, c'est quand même plus notre atelier français et nos artisans français qui influencent, je pense, quand même notre savoir-faire américain, parce que bah, y a une connaissance quand même plus théorique, plus académique de ce métier. Donc aujourd'hui, l'idée, c'est souvent ce que dit mon père Charles, c'est qu'on essaie de former nos artisans à notre main. Notre singularité, on l'a créée à Villeurbanne. Mais bien sûr, ils nous apportent aussi des techniques, des choses qu'ils ont apprises, qui sont peut-être moins conventionnelles, mais tout aussi efficaces. Donc voilà, on se nourrit les uns les autres, mais c'est vrai que voilà, par exemple, notre chef d'atelier, il est compagnon, Clément, Arthur, qui nous a rejoint il y a quoi, il y a 6-7 mois. Avant ça, c'était Clamy Ménard, qui était aussi compagnon du Tour de France. Donc voilà, pour le moment, on essaie quand même d'insuffler plus ce savoir-faire français.
Merci Romain.
Merci Raphaël.
Bonjour Karl Maslow.
Bonjour Raphaël.
Quel plaisir de vous retrouver ici.
Pareil, je pensais pas sortir de mon atelier en plus.
C'est rare de vous voir en dehors de l'atelier, vous, c'est vrai.
C'est marrant, j'en parlais il n'y a pas très longtemps avec des amis, mais je trouve que c'est important de prendre ce temps pour exposer, sortir de son atelier. Par contre, c'est beaucoup de travail. On se met toujours la pression pour donner le meilleur de soi. Il y a cette deadline qui est le 8 juin, où en fait, on finit nos pièces la veille.
Parce que vous avez fait des pièces spécialement pour le salon ?
Oui, j'ai travaillé, je voulais représenter des nouvelles pièces en rapport avec la brique et de nouvelles matières comme la malachite que j'ai sourcée en France. Donc la malachite, c'est une pierre verte, c'est une pierre ornementale. Elle a un veinage qui est spécial, qui pour moi révèle un peu le même graphisme que l'acier damassé. Ces mêmes lignes élégantes et qui rappellent un mouvement dans la matière.
Et ça résout notre problème évoqué pendant le podcast, c'est que l'acier damassé que vous avez à l'atelier, que vous aviez fabriqué au Japon, c'est un stock très limité, donc ouais. Il fallait trouver une nouvelle vie et un nouveau terrain de jeu.
Oui.
Alors, est-ce que vous pouvez nous décrire une pièce qui vous paraît représentative de votre travail et de ce que vous avez créé pour le salon, et vous nous la décrivez pour tous ceux qui ne peuvent pas être là aujourd'hui?
Je vais essayer de bien choisir.
Alors pendant ce temps-là, moi je vais parler un peu de la scénographie des pièces de Karl Maslow. Il a fait comme une chaîne de montagnes. Je ne sais pas quelle matière il a utilisé pour ça, mais on dirait presque de la craie. Et pourtant c'est tout souple et les bagues s'accrochent dedans. C'est très malin, c'est presque à hauteur d'œil. C'est à hauteur d'épaule dans le stand, ça fait tout le tour. Il y a une vingtaine de pièces, même un peu plus, qui sont exposées aujourd'hui sur le salon. Alors Karl Maslow, décrivez-nous cette pièce.
Alors... Donc elle est deux fois plus grande de ce que j'ai l'habitude de faire. Pour une...
On peut commencer par dire que c'est une bague.
Oui, c'est une bague en or, sertie d'une malachite. Donc elle doit faire à peu près 3 cm. J'ai développé une texture qui représente comme une écume, qui a un mouvement assez doux. Et donc sur cette malachite, en fait, qui prend presque tout le doigt quand elle est sur la main, il y a un mouvement de strates, comme ça, qui est nuancé de vert clair au vert foncé. Presque vert bouteille. Et ce qui est intéressant, c'est que quand on tourne la bague, eh ben, il y a ce même mouvement qu'on retrouve dans l'acier damassé.
Je vais compléter cette très jolie description. C'est le sertissage qui est fait avec un motif d'or qui reprend en effet comme l'écume à la surface d'une vague. Et cette malachite qui a un mouvement d'onde donne évidemment l'impression d'un reflet d'eau. Et donc, comme on connaît et qu'on aime votre univers poétique, il y a une consistance, une cohérence dans cette pièce qui fait que vraiment on est au bord d'un lac poétique. Et ce qui me surprend ici, c'est que cet acier damassier si rare et si précieux, vous l'avez mis au dos, caché.
Oui, je l'ai caché pour deux raisons. Cette plaque d'acier damassé qui est en dessous, elle a un rôle de protection de la pierre. Elle dépasse légèrement au cas où on la pose ou elle tombe. C'est l'acier damassé qui prend les premiers chocs.
D'accord.
Donc déjà, c'est une fonction de protection. Et la deuxième, c'était pour découvrir aussi quelque chose derrière la bague et qu'on ne s'attende pas à voir de l'or ou le verre de la pierre.
L'histoire se poursuit au dos.
Oui, ça c'est le petit secret, mais que je vais sceller à un moment, quand la pièce sera acquise, c'est qu'en fait, hop, on peut l'enlever et découvrir un autre paysage qui est caché derrière, que je prendrai en photo avant de sertir complètement la pierre. Parce que là, elle tient, elle ne bougera pas, mais il faut que je mette un rivet invisible à l'intérieur.
Merci Karl Maslow.
Tu ne connais pas Martine Ray. Martine Ray est une super laqueuse. Martine, en fait, j'ai rencontré par mon séjour au Japon. J'ai beaucoup entendu parler d'elle, surtout pour ta démarche de faire du kintsugi sur les personnes, sur des blessés. Donc, réparer vraiment la cicatrice de la personne.
Avec de la feuille d'or ?
Oui.
Alors, pardon, Karl, je te fais taire tout de suite. Je veux entendre Martine, moi. Bonjour, Martine Ray.
Bonjour.
Alors, quel est votre métier? Il nous a dit que vous êtes laqueuse, c'est ça?
Oui, c'est ça, oui. Oui, je suis laqueuse. Je travaille avec la laque végétale depuis 40 ans. J'ai eu la chance de faire presque 2 ans d'études au Japon il y a une quarantaine d'années. Et depuis, je suis tombée amoureuse de cette matière. Je n'ai pas arrêté à la fois de l'exploiter et de la servir dans toutes ses capacités, enfin dans toute la façon dont elle peut nous offrir de possibilités autant au niveau technique, parce qu'elle a une technique très très rigoureuse, et en même temps, l'ouverture qu'elle permet, parce que c'est un matériau excessivement protéiforme, j'ai pu la manipuler sur du tissu, à la fois effectivement sur de la céramique à travers le kintsugi, puisque c'est la technique qui est utilisée depuis le XVIe siècle pour restaurer les pièces de céramique qui servaient à la cérémonie du thé.
Mais oui, on ne parle plus que de ça, de kintsugi, mais vous, ça fait 30 ans que vous le travaillez. Comment a commencé ce coup de foudre avec cette matière? Je sais que là, on est sur le salon, je ne peux pas vous faire un podcast complet, mais j'ai envie de savoir, ce coup de foudre, comment c'est arrivé? Et le coup de foudre avec le Japon?
Alors, le coup de foudre est arrivé par mon histoire personnelle. Quand j'étais petite, en fait, j'avais un grand-père qui était allé au Vietnam, évidemment. C'était une colonie française. Il était marin. Donc, il y avait aussi l'histoire du voyage qui m'a beaucoup accompagnée tout au long de ma vie. Quand j'ai commencé mes études aux arts appliqués, je suis rentrée dans l'atelier de Lac.
Parce que votre grand-père était revenu avec des objets?
Oui, mon grand-père, en fait, dans la maison de mes grands-parents, il n'y avait que des objets chinois laqués. Quand on allait les voir, on dormait dans un lit chinois, un laqué rouge, c'était incroyable, quoi. C'est déjà un vrai voyage et je crois que cette imprégnation, elle s'est effectuée après dans mes études aux arts appliqués. J'ai choisi cette spécialité. Bon, à ce moment-là, on faisait de la laque cellulosique au pistolet, hein, donc, mais la technique reste la même, en fait.
Mais il y avait encore quelqu'un pour vous apprendre?
Alors, sur la laque cellulosique, oui, il y a des cours. Il y a toujours, en fait, un diplôme de métier d'art en spécialité laque. En sortant des arts appliqués, je me suis dit, oh, ce serait sympa d'aller juste faire un petit tour au Japon pour savoir qu'est-ce que c'est que cette matière originelle, en fait, qui a donné cette technique. Et c'est vrai que ça a été un peu le choc en arrivant à la fois pour la matière, qui est vraiment la matière végétale, c'est vraiment un produit incroyable, et le Japon. Il y a eu un petit truc sur, vous savez, comme quand on arrive quelque part et qu'on se dit, tiens, ça comble la part manquante de notre vie, il y a quelque chose qui nous manquait. Donc il y a eu ce coup de foudre avec le Japon, avec la laque. J'ai pu rester presque 2 ans, en fait, au Japon. J'avais une bourse du ministère des Affaires étrangères. Et quand je suis rentrée, j'ai décidé de ne plus utiliser que cette matière. C'est vrai qu'au départ, j'ai été très respectueuse, je le reste, hein, mais avec la technique, parce que c'est vraiment une technique assez rigoureuse, qui est très lente, un peu laborieuse aussi, mais qui me plaisait beaucoup, hein, c'est parce qu'on passe des couches de laque successives, on les ponce, on passe autant de temps à poncer qu'à laquer, presque peut-être plus, et enlever de la matière, mais à chaque fois, c'est comme si on déposait que ce qu'il fallait. Et dans cette histoire de laisser ce qu'il fallait, je suis arrivée là, actuellement, en fait, à même utiliser de la laque à un minimum, puisque j'ai plus ou moins inventé une technique de dépose de laque sur de l'eau, comme le papier marbré, en fait. Je pose de la laque sur de l'eau et j'imprime un papier dessus. Et je me suis aperçue que, en dessinant de cette façon sur l'eau, je créais des sortes de cartes, comme des territoires, comme si j'arrivais à faire un entre-deux entre ces deux pays qui sont à la fois la France, qui est mon pays d'origine, mes racines profondes, et le Japon qui m'a tant donné, en fait, pour essayer de me recoller moi-même, comme pour le kintsugi, on essaye de...
Alors justement, comment vous réparez les gens avec le kintsugi?
Alors là, c'était plus une performance, mais en même temps une performance qui était avec une amie artiste qui s'appelle Hélène Guggenheim. Il y avait une sorte de protocole, en fait, où elle demandait à des personnes qui avaient été marquées par des opérations et avec lesquelles elles avaient du mal à vivre, en mettant de la lumière, l'or, en fait, c'est ce qui restaure, c'est la lumière.
Et l'or, ça veut dire lumière.
Exactement. Et c'est vrai que c'était très, très émouvant de travailler de cette façon-là, parce qu'il y avait une sorte de dénuement réciproque entre la personne qui a été effectivement dorée, hein, et moi-même, dans la mesure où on ne se connaissait pas. C'est comme si on était devant un monument brisé et qu'on était en train de le recoller, d'essayer de lui redonner, en fait, la possibilité de vivre. L'or, évidemment, ne reste pas quand on fait sur des personnes, mais elle est rentrée à l'intérieur, et en fait, c'est bien la richesse qu'on a à l'intérieur qui est importante. Ça permettait, effectivement, de recoller ce passage douloureux de l'opération des manques.
C'est magnifique, c'est très beau. Merci d'avoir partagé ça. Et merci à Karl Maslow d'avoir permis cette rencontre au détour d'un stand dans les allées du Salon Révélation. Merci beaucoup, Martine.
Bonjour Pascal Houdet.
Bonjour Raphaël.
Alors c'est un plaisir de vous voir en vrai parce que vous êtes une star sur Instagram pour nous les amoureux des métiers d'art. On est très très nombreux à suivre votre compte Instagram, à suivre vos lives aussi, vos vidéos quand vous nous montrez comment vous tournez le bois parce que c'est ça que vous faites vous, c'est que vous êtes un tourneur et vous prenez des souches massives et vous en faites de la dentelle, c'est ça ?
Oui c'est ça, je pars de troncs de chêne massifs que je vais choisir en forêt et puis j'enlève beaucoup 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 de matière et je l'use jusqu'à en faire de la dentelle.
C'est ça. Alors en fait, j'allais dire décrivez-nous, mais vous venez de décrire là.
Mais en fait, la dentelle, c'est... Maintenant, j'ai même marqué ça sur mon stand, parce que la plupart des gens qui regardent mon travail, ils disent « Ah, on dirait de la dentelle ». Et donc, comme tout le monde ressent ça, je dis que je fais de la dentelle de bois, et c'est assez parlant. Quand on n'a pas l'image, on imagine quelque chose en pensant dentelle.
Ce qui a écrit, plus précisément, c'est « dentelle de chêne ». Vous n'utilisez que cette essence ?
Oui, je travaille que le chêne parce que seul le chêne en fait a la structure qui me permet de faire ce travail. Il n'y a pas d'autres essences.
Et vous dites structure parce que si je me souviens bien de notre Insta Live du confinement, vous êtes ingénieur vous au départ.
J'ai eu une vie antérieure qui n'avait pas grand chose à voir avec les métiers d'art, ouais. Mais du coup, il y a une curiosité scientifique qui est restée.
Et alors cette transition, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous suivent et qui nous écoutent, ont des vies très différentes des métiers d'art et rêvent de rejoindre ce joli secteur. Vous, vous l'avez fait. C'est quoi votre bilan ?
Mon bilan, c'est que je reviendrai en arrière pour rien au monde. C'est une transition qui s'est faite en douceur, donc c'était pas un saut dans l'inconnu, mais je retournerai à aucun prix dans le privé sous les ordres d'un chef. Voilà, je suis mon chef, si je décide de travailler, je travaille, si je décide d'aller faire du vélo, je vais faire du vélo, si je veux travailler toute la nuit, je travaille toute la nuit, et le résultat de ce que je fais, je le vois tous les jours. Voilà, et ça, c'est, comme disent les Anglais, c'est priceless.
Et justement, à propos de Price, vous avez réussi à retrouver un niveau de vie qui vous convient avec ce nouveau métier ?
Mon niveau de vie est, me convient, je ne me plains pas, ça marche plutôt bien, j'ai de la chance, j'en suis tout à fait conscient. Après, j'essaie de, pour employer des gros mots, de me donner les moyens ou d'essayer des choses, d'aller sur les salons, d'aller trouver les clients où ils sont, d'aller les chercher et pas d'attendre qu'ils viennent à mon atelier.
Et justement, votre Instagram qui doit vous prendre du temps et qui brasse une grande communauté, est-ce qu'il vous amène du business ?
Je dis toujours, avoir plein d'abonnés à Instagram, c'est comme être riche au Monopoly. C'est pas ça qui garantit le succès. J'ai un peu plus de 20 000 abonnés. Sur les 20 000 abonnés, ça me permet de vendre 2-3 pièces par an. Soit certains clients fidèles qui, en fait, à un moment donné, je vais poster une pièce et puis à ce moment-là, il va y avoir un coup de cœur qui va se passer et ils vont me contacter. Ou des gens que je connais pas, qui sont dans le monde entier et qui vont me contacter. J'ai eu des ventes comme ça en Australie, au Pérou, de gens qui flashent par Instagram. Et clairement, je vois, quand je mets des posts sur Instagram, je vois un lien avec la fréquentation de ma boutique en ligne sur mon site. Donc il y a un vrai avantage de communiquer sur Instagram. C'est une présence qui est gratuite et qui touche des collectionneurs, des amateurs, des professionnels surtout dans le monde entier. Ce qui est une grosse différence par rapport à Facebook. Facebook, c'est plutôt les amis du cercle des métiers d'art. Instagram, ça peut être vraiment des clients en fait.
J'ai l'impression que vous êtes un peu calmé sur la quête du plus grand diamètre possible par rapport au dernier salon.
Alors sur le dernier salon en 2019, j'avais effectivement une tranche de chêne qui faisait 1 mètre de diamètre. Là, elle ne fait que 82. Il se trouve que je suis tributaire des arbres que je choisis évidemment, donc enfin des arbres dont je dispose, que je peux acheter. Et cette année, j'en ai rentré un qui est très gros, mais qui était trop gros pour pouvoir le travailler en un bloc sur le tour. Donc, à un moment donné, il y a des limitations physiques côté matière, côté outil, puis côté bonhomme aussi, qui font que je peux pas soulever des morceaux de 200 kilos.
Alors, vous jouez avec ces contraintes-là et vous décomposez. Là, je vois qu'on est parti aussi sur des formes un peu plus géométriques, un peu plus anglées par rapport aux formes courbes qu'on vous connaît. C'est une évolution de votre travail, ça ?
Alors au début, c'était un peu une contrainte par rapport justement à des très gros arbres qui souvent ont des fentes, donc je pouvais pas garder une tranche entière, donc je la coupais en morceaux. Et puis c'est aussi une réponse par rapport à certains clients qui me demandent jusqu'à quelle taille vous pouvez aller. Et à un moment donné, comme je disais, on est limité par l'aspect physique de la matière et de moi-même. Et donc, si j'ai des grandes surfaces à occuper, bah autant penser multiples, penser composition avec des rectangles, des carrés, et puis créer un agencement, créer un rythme à partir de gros éléments, mais qui restent quand même d'une taille raisonnable.
Alors, si on veut voir vos pièces, parce que c'est frustrant, bien sûr, on va aller sur Instagram, mais si on voulait les voir en vrai, est-ce qu'il y a un endroit à Paris où on peut le faire ?
Alors, il y a une boutique rue de Luynes qui s'appelle la Maison de Commerce, qui a quelques pièces à moi.
Merci Pascal Houdet.
Merci Raphaël.
Alors, nous sommes chez Pinton, fabricant de tapis et tissus depuis 1867. Alors racontez-moi, mesdames, vous existez depuis 1867, vous avez une manufacture traditionnelle sur des métiers traditionnels, et ce que je vois là sur votre stand n'a rien de traditionnel. Qu'est-ce qui se passe ?
C'est toute la complexité justement de cet univers, c'est qu'on collabore beaucoup avec des artistes, on a toujours collaboré avec des artistes depuis 1867, des artistes qui viennent un peu bousculer les codes de la tapisserie ancestrale qu'on connaît sur des métiers de basse lisse et du tapis tuft qui est sur des métiers de haute lisse. Du coup, en fait, notre patte et notre valeur ajoutée, ça a été de faire de l'insert de matériaux dans les tapis et dans les tapisseries, de pouvoir mélanger un petit peu et mettre en avant les matières. Et c'est un petit peu l'intention des artistes qui travaillent avec nous, c'est de pouvoir justement travailler toutes les matières, les mixer et nous challenger aussi pour pouvoir avoir cette modernité.
Et du coup, c'est des temps d'immersion et de recherche qui sont très longs.
Tout à fait. Pour un tapis, il faut compter à peu près 12 semaines de production, un tapis tufté. Et la tapisserie, ça dépend un petit peu de la taille et de la complexité des modèles, des matières qu'on va insérer. Mais on peut compter 6 mois de production pour une tapisserie.
Qui sont vos clients ?
Principalement des architectes d'intérieur. Pour les collaborations, ça peut être des designers, des artistes qui n'ont jamais travaillé sur le textile et qui ont justement envie de pouvoir donner l'intérêt de leur travail sur des parties textiles jamais travaillées auparavant, mais principalement des architectes d'intérieur.
D'accord. Et vous avez un lab ?
Oui, un studio lab que vous voyez au fond là-bas, qui est intégré au sein de notre entreprise, avec lequel on essaie de travailler, développer de nouvelles matières, sourcer des matériaux qu'on ne faisait pas avant pour pouvoir présenter des choses exceptionnelles.
Vous pouvez nous donner des exemples ?
Oui, alors on a travaillé principalement le cuir. Là-bas, vous voyez des mix entre tapisserie et tapis, du coup nos deux savoir-faire un peu mélangés. Des tapis travaillés en beaucoup plus grosses textures, des hauteurs plus importante que ce qu'on a l'habitude de voir d'habitude, du lurex, du métal, du mohair, voilà. Du lin aussi français qu'on travaille beaucoup, des matières naturelles qu'on ne teint pas pour pouvoir rester dans quelque chose de vraiment brut et naturel.
Merci mesdames.
Merci à vous.
Okamoto Satoshi, souffleur de verre.
Est-ce qu'il y a eu des anges gardiens sur votre parcours dont vous pourriez nous parler ? Quelqu'un qui vous a guidé sur votre chemin ?
Donc mon ancien maître souffleur, donc Kenji Ito, japonais, il a décédé donc 2021, en mois de novembre.
Et combien de temps vous avez été auprès de lui ?
12 ans, premier assistante.
Au Japon ?
Au Japon, ouais.
Vous avez votre atelier en France ?
Oui, tout à fait, depuis 2008.
Et vous avez eu un maître en France ou vous êtes venu avec votre technique japonaise travailler en France ?
Je viens tout seul au début et puis j'ai ma propre technique.
C'est quoi votre technique ? Racontez-moi votre travail et c'est quoi votre démarche à vous ?
Ma technique, c'est que j'ai superposé de la feuille d'argent et des couleurs en poudre en verre.
Et vous êtes souffleur vous-même ?
Oui.
Vous pouvez me décrire une œuvre parce que vous savez, dans le podcast, on ne voit rien, il n'y a pas de photo. Est-ce que vous pouvez essayer avec vos mots de me décrire par exemple l'œuvre que je vois ici devant moi pour que les gens arrivent à se l'imaginer ?
Ça, c'est pas facile, non ?
C'est très difficile. Mais moi, je vois comme un paysage de nuit, comme la Terre qui serait vue depuis l'espace, où on verrait un lagon, non ?
Ouais, après, ça dépend du genre. Mon travail, c'est quand même beaucoup d'opacité. Il y a des fenêtres, transparence. Donc, on voit à l'intérieur profondeur du verre. Mon idée, c'est quand même, je laisse pas trop de transparence.
Le vase que je vois devant moi, il est en quelle matière ?
C'est le verre.
Qui est devenu parfaitement opaque par les techniques de quoi ? De patine ?
Non, c'est la couleur qui est opaque. Et puis je mets de la feuille d'argent, donc il brille aussi. J'ai rajouté feuille d'argent, feuille d'or, après tout est en verre. Hein. Donc après soit en poudre, soit la couleur en massif, soit un peu granulé.
C'est très déroutant comme matière parce que on dirait de la céramique et quand on s'approche, on voit que c'est absolument pas de la céramique. En fait, vous avez une maîtrise du verre qui est assez exceptionnelle.
C'est vrai que le métier, c'est assez maîtrise. Et puis moi, j'aime bien en fait opacité, soit comme vous dites, comme la matière céramique, mais en même temps, c'est comme la terre, comme un peu à pierre, précieux aussi. Ouais. Et un peu parfois, c'est comme bronze, un peu tout. Mmh. En fait, le verre, ça peut montrer plein de choses. C'est pas que la transparence.
Non. Exactement, vous amenez le verre dans un territoire où on n'a pas du tout l'habitude de l'attendre.
C'est le contraire, en fait, les gens profitent trop de transparence. Ouais. Il faut encore travailler, aller plus loin, moi je trouve, hein, parce que transparence c'est naturel, presque. Il faut travailler.
Ouais. Merci beaucoup. Alors, je tombe sur Franck Hernandez, chargé d'affaires à la métallerie aux ateliers Saint-Jacques. Franck, tout va bien aux ateliers Saint-Jacques ?
Bah oui, même trop bien, voilà.
C'est comment trop bien?
Bah, c'est que beaucoup de travail, beaucoup de demandes, beaucoup de sollicitations et on est un peu frustré parce que bah, malheureusement, on ne peut pas répondre à tout le monde. Voilà. Et notre gros souci aujourd'hui, c'est le manque de personnes. On n'arrive pas à embaucher du monde. Quoi. Voilà. On a beaucoup de travail et on a du mal à recruter.
C'est quoi la solution? Vous faites des campagnes de recrutement? Vous cherchez quel type de profil des compagnons essentiellement?
Non, pas que. C'est vrai qu'à un moment donné, notre critère de sélection était des gens très perfectionnés, très professionnels. Aujourd'hui, on est prêt à embaucher des gens avec un peu moins de compétences à les former nous-mêmes. Donc déjà, la Fondation et Atelier Saint-Jacques, notre première mission, c'est quand même de former les jeunes. Et malgré tout, on les forme. Bon, c'est des jeunes qui sont que de passage pendant un an. On les forme, ils ne restent pas. Mais on a besoin d'embaucher des jeunes ou des moins jeunes et qui viennent nous voir parce qu'on a beaucoup de travail. Donc.
Alors justement, mais il y en a plein qui nous écoutent. Qu'est-ce qu'on leur dit pour qu'ils viennent vous voir et qu'ils toquent à la porte?
De s'intéresser au métier manuel, au métier d'excellence, de passion, voilà, et de s'intéresser à ce qu'on peut faire avec les mains et la tête, parce qu'il n'y a pas que la main, il y a la tête aussi. Voilà. Donc c'est ce qu'on propose aux ateliers Saint-Jacques. Mais toujours pareil, il faut découvrir nos métiers aussi, parce que beaucoup de jeunes... Moi, jeunes ne connaissent pas vraiment nos métiers, l'épanouissement qu'on peut avoir dans nos métiers. Voilà. C'est déjà tout, j'ai commencé à 16 ans, j'en ai 40 de plus aujourd'hui et tous les jours, c'est un vrai bonheur de travailler, quoi. Voilà, de s'épanouir, de découvrir, d'être aujourd'hui là, de travailler avec des architectes, des décorateurs, des designers, des clients. Donc, voilà. Il y a vraiment de quoi s'amuser et de s'épanouir, surtout. Voilà.
Parfait, merci beaucoup, Franck. Bonjour Morgane Baroguel-Cruc.
Bonjour Raphaël.
C'est un plaisir de vous voir ici parce que vous êtes à Aix-en-Provence, donc on n'a pas souvent le plaisir de vous voir à Paris et de voir vos œuvres en vrai, donc c'était pour moi une joie de vous retrouver sur le Salon Révélation. On fait une visite des yeux fermés aujourd'hui, est-ce que vous pouvez nous choisir une œuvre et nous la raconter?
Alors oui, bien sûr, avec plaisir. Eh bien, je vais choisir Module, Chasmas, donc ce sont des sculptures textiles. Moi, je suis designer textile et artiste textile, donc je suis spécialisée en tissage. Je travaille sur métier à tisser. Donc, a priori, un tissage se réalise à plat, puisque un tissage, c'est un croisement de fils perpendiculaires, donc on est à plat. La particularité de mon activité, c'est d'essayer de créer du volume dans le tissage pour apporter une valeur ajoutée. Et donc, sur cette série Chasma, on est sur des sculptures textiles qui sont réalisées en soie et en métal. Donc, c'est un laiton un peu particulier qui va prendre son volume de lui-même, qui a une vie particulière. J'aime bien dire que les matières sont vivantes, surtout les matières minérales, parce qu'on n'a pas vraiment l'habitude de leur prêter une vie. Et en fait, ce métal va, c'est assez technique, mais avec les croisements de fils, il va, quand on détend le métier à tisser, quand on fait le tombé de métier, en fait, le volume se crée de lui-même.
Et c'est une surprise.
Et c'est totalement une surprise. Donc là, j'ai une série de 3 pièces et les 3 volumes créés sont 3 volumes totalement différents. Ils sont créés d'eux-mêmes. Alors évidemment, après, je fais une confection de la pièce pour qu'elle puisse être présentée. Mais le volume, en fait, est différent sur les 3 pièces.
Et si vous étiez pas vous, si vous étiez un visiteur qui passait et qui adorait décrire les choses, comment vous nous décririez exactement ce qu'on voit là? Les couleurs, les formes, les reflets?
Alors ça brille. C'est doré. Ça brille, ça joue beaucoup avec la lumière. C'est en mouvement, on dirait des sortes de vagues. On s'attend presque à ce que ça bouge. Ça a une forme un peu organique, presque de coquillage, je dirais.
Complètement. On est sur un coquillage qui doit faire 35-40 cm de haut.
Oui, tout à fait. Voilà, 45 par 25, je dirais.
Et c'est des œuvres qui sont posées au mur. On est dans une gamme de couleurs très douces, dans les beiges, les gris clairs, avec des rayons d'or, évidemment, puisque c'est les fils du laiton qui nous donnent ce jeu avec la lumière et qui font que, selon le point de vue qu'on a sur les pièces, elles vont vivre et vibrer complètement différemment.
C'est exactement ça. C'est ce qui me plaît beaucoup dans ma création. C'est d'apporter du mouvement dans des choses qui sont plutôt statiques en général. Et la lumière est effectivement parfaite pour ça, puisque la lumière est constamment en changement. Donc la pièce change en fonction de l'éclairage de la pièce, en fonction de même, quand on tourne autour de la pièce bouge. Voilà.
Merci Morgane.
Merci Raphaël. Yeah.
Bonjour Guillaume Féo et Anne Midaven. Décrivez-nous Guillaume ce stand parce qu'on fait une visite les yeux fermés nous.
En fait on a décidé de présenter des différentes matières, surtout aussi pour montrer la collaboration qu'on peut avoir avec l'atelier Midaven. Donc il fallait mélanger à la fois le travail de la boiserie, un peu de création et les belles lacs de Anne. Donc là on a réussi à récupérer des choses déclinées à partir de matières végétales, donc de feuilles de bambou, qu'on a mélangées après avec de la laque plutôt japonaise que Anne a pu faire avec des motifs géométriques très intéressants. Mais il y a un mélange à la fois de végétal et de lac classique. Et puis après, Anne a fait un très joli panneau. Elle va vous expliquer ce qu'elle a fait.
C'est un panneau de deux ors. Donc, il a un fond d'or blanc et des petits végétaux, puisque c'est notre thème de l'année, c'est de l'or moon gold, avec un peu de relief sur chaque. Voilà. Et puis, on a fait une table avec Robert Folly qui l'a designé, le Dantec qui a fait la partie métal. Et l'idée initiale, enfin, le cahier des charges que j'avais donné, moi, c'était rond, triangle, carré. Nous, on a fait la partie lac, bien sûr.
Donc, c'est une table éclatée avec deux triangles. L'un est posé sur un carré avec un rond au milieu.
Les deux triangles se rapprochent. D'accord. Le rond disparaît à l'intérieur. D'accord. Et donc, elle peut être une table carrée de 1 mètre par 1 mètre, ce qui est assez raisonnable en taille. Et quand on a un très grand salon et qu'on reçoit, on peut étendre la table telle qu'elle est là. Il est conseillé normalement de l'avoir sur le même plan. Ici, on l'a mis sur deux plans différents pour que on voit mieux sa structure et qu'elle soit un peu déstructurée justement.
Merci Anne Midaven.
Alors je m'appelle Xavier Montois et je suis designer bijoutier. Alors on est sur le stand des ateliers de Paris, le stand I8. Donc on est plusieurs résidents des ateliers de Paris à partager le stand et à exposer notre travail.
D'après toi, qui était à ta place il y a 10 ans sur ton stand? Comment tu l'imagines?
Qui était à ma place? Eh bien je vais dire un ancien résident des ateliers de Paris. Eh bien je vais imaginer un marketeur qui travaillait avec des insectes comme matière première, iridescent, et la nacre aussi peut-être, des matériaux naturels et qui s'en servaient comme matière première pour des créations.
Parce que c'est ce que vous faites aujourd'hui, vous travaillez donc à partir des insectes comme matière première pour faire des bijoux précieux?
C'est ça, en fait j'utilise les élytres de coléoptères, donc les élytres c'est la partie de l'insecte qui protège les ailes, et donc je travaille avec des insectes qui proviennent de Thaïlande, qui sont iridescents, donc qui passent du vert au bleu et du doré au vert. L'idée, en fait, c'est de me servir donc de ces insectes-là comme matière première pour changer le regard qu'on porte sur les insectes.
Et qui sera à votre place dans 10 ans?
Eh bien, j'espère qu'on pourra continuer à avoir des personnes qui travaillent avec des insectes parce qu'il y aura encore des insectes sur Terre dans 10 ans.
Quel est votre ange gardien?
Eh bien, personnellement, c'est Eve Georges.
On la connaît, Eve Georges, on l'a podcastée avant-dernier épisode. Comment ça et pourquoi et comment? Je veux tout savoir.
Eh bien, Georges, c'est ma meilleure amie depuis 10 ans maintenant, dans le milieu du design et des arts appliqués. Elle est un peu la précurseur, elle fait les choses avant moi et je peux profiter de son expérience et de ses conseils pour me lancer. Donc, c'est mon ange gardien.
Merci Xavier Montois. Bonjour Eve Georges.
Bonjour Raphaël.
Vous faites partie des lauréates de cette belle association Matière Libre de Mathias.
Exactement, oui. J'étais lauréate l'année dernière. J'ai remporté le deuxième prix avec cette pièce qui est exposée qui s'appelle Vague, qui est une composition de carreaux de verre. En quelque sorte, c'est ma pièce de diplôme en fait. C'est un processus que j'ai mis au point pendant ma formation de souffleuse de verre. Et du coup, j'ai créé une composition pour candidater à ce prix. C'était l'année dernière, ouais, c'est ça.
C'est composé, alors, à l'œil, de 12 par 10 carreaux?
Alors, cette composition, oui, alors, il y a, je crois, 49 carreaux, il me semble. Donc, ils sont tous uniques. En fait, je façonne un décor en mélangeant du vert transparent et des verres de couleur à la canne. Donc, je façonne des éléments qui sont en volume au départ. Et c'est comme ça que j'ai une maîtrise complète du décor. Voilà, il faut s'imaginer, du coup, que c'est comme des billes de verre, en quelque sorte, d'un certain poids. Je les calibre et ensuite je les remets à fondre à plat pour qu'il se transforme en carreau. Ce qui permet d'avoir un décor qui est dans toute la profondeur de l'objet, voilà, d'avoir une impression complètement différente que si c'était quelque chose qui était rapporté ou peint, ou voilà, c'était dans la masse.
C'est malin.
Merci.
Merci Eve-Georges.
Merci beaucoup Raphaël.
Bonjour, Duy-Anne Nanduc.
Bonjour.
Donc on est devant une œuvre que vous avez faite en collaboration avec la maison Rodrer. Est-ce que vous pouvez, pour nous qui ne pouvons pas vous voir et pas voir cette œuvre, d'abord nous parler de votre métier? C'est quoi votre métier?
Alors écoutez, moi je me considère comme un cueilleur contemplatif. Avant plus un artiste, parce que je suis autodidacte. Mon travail en tant que plasticien, c'est que j'utilise seulement des herbes sauvages pour l'utiliser dans mes créations. Les herbes en tout cas les plus communs, donc ça peut être du plantain, du pissenlit, du salsifis, de l'oxalis, des samars d'érable. Voilà, ça c'est vraiment des plantes avec lesquelles j'ai une connexion où je trouve beaucoup de plaisir à travailler avec.
Là, nous sommes devant une œuvre que je viens de découvrir puisqu'elle est dévoilée aujourd'hui au Salon Révélation par la Maison Rodrer. Est-ce que vous pouvez nous décrire avec vos mots cette œuvre, encore une fois pour tous ceux qui ne peuvent pas la voir en nous écoutant?
Cette œuvre s'appelle « Mémoire du sol ». C'est une captation d'un moment précis dans les champs chez Roderer. Chez Roderer, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la première fois que je suis venu, c'était fin de printemps, début d'été. C'était dans un parcelle de jachère, donc il laisse 4 ans pour que la terre puisse se reposer, pour se redynamiser, pour récupérer les forces nécessaires pour les prochains cycles, pour porter la vigne en vigueur. Ce sont des champs fleuris. Et donc, j'ai voulu vraiment exprimer, en fait, cette compréhension de la nature. Ça veut dire qu'à un moment donné, on puise le sol. Et en fait, eux, ils ont su écouter le sol et le renourrir d'une façon assez belle. J'ai vraiment voulu collecter toutes les fleurs qui s'y trouvaient, les bleuets, les mauves, les oxalis, plein d'autres plantes.
Encore des noms de fleurs.
Oui. Du coup, vous avez les bleuets. Vous avez les lupins, vous avez aussi des coquelicots, vous avez des grappes de raisin qui étaient délaissées aussi pendant l'arrachage. Et ça, je les ai préservées, je les ai fait sécher et ensuite dégraminées aussi. Et du coup, ensuite, je suis retourné en automne pour récupérer les fruits parce qu'en fait, elles font aussi des graines. J'ai voulu vraiment capter ce moment qui est propice à un moment donné de ces jachères. Il faut savoir aussi qu'il y avait plein de libellules, des coccinelles. Et en fait, je l'ai appelé mémoire du sol parce que tout ça va nourrir le sol, va créer de l'humus. C'est vraiment ça que je voulais un peu apporter de ma compréhension et de ce que j'ai ressenti dans ces parcelles.
Merci, Duy-Anne Nanduc. Bonjour Cécile Geiger, vous êtes sculptrice sur métal?
Sculpteur sur métal, avec un E.
Chacune son féministe, vous c'est sculpteur sur métal. Alors Cécile, est-ce qu'il y a eu des anges gardiens sur votre route dont vous pourriez nous parler?
Eh bien en fait, on travaillait dans une équipe de métalliers. Je n'étais pas métallière à la base, mais j'étais entourée de métallos qui travaillaient avec Jean-Michel Letoniel. Donc après j'étais amenée à apprendre un peu à souder, je vais pas dire ça, c'est un peu bizarre, mais en soudant sur les pièces directement d'Otoniel. Donc c'est un sculpteur contemporain qui fait du monumental. J'ai un peu commencé comme ça à appréhender le métal et ça m'a donné envie d'avoir ma propre écriture qui n'a absolument rien à voir évidemment, mais je me suis mise à apprendre à souder de cette façon-là. Et puis après, bah, j'aime le volume, j'adore plier, remplir l'espace de pièces comme ça. Je réfléchis pas à mes pièces, je les dessine pas, c'est vraiment, elles viennent remplir un espace, et c'est de cette manière-là que je suis arrivée à travailler le métal.
Otoniel comme ange gardien, c'est pas la classe ça?
Je sais pas si c'est un ange gardien, mais en tout cas c'est un inspirateur, voilà, même si mon travail n'a rien à voir.
Et on va aller voir votre travail du coup sur Instagram, Cécile Geiger. Bonjour Marie-Roland.
Bonjour Raphaël.
Qu'est-ce que vous nous présentez ici? Donc on est sur le stand du Prix Mathias, Association Matière Libre. Donc vous avez été distingué par cette jolie association. Racontez-nous votre œuvre pour tous nos auditeurs qui ne peuvent pas la voir.
Alors je présente ici un hommage au Salin du Midi d'Aigues-Mortes. Donc une vue du ciel des Salins, réalisée avec la technique d'un montage de vitrail traditionnel. Donc l'idée c'est de reprendre le vitrail traditionnel grâce à l'utilisation de sel incrusté avec une résine biosourcée, tout en reprenant les formes géométriques qu'on retrouve au naturel dans les Salins. Donc avec des jeux de lumière, de couleurs et de matières qu'on ne retrouve pas dans un vitrail traditionnel.
Merci Marie.
Avec plaisir.
Allez-y,
Alors Steven Leprisé, je sors de la vente Piazza qui a eu lieu pendant le Salon Révélation, où votre banc, qui est un banc que vous allez nous décrire, vient d'être vendu pour 17 000 euros. Est-ce que vous pouvez nous raconter l'histoire de cette pièce ?
Oui, alors c'est un banc qui était à l'atelier là depuis 2-3 ans, sur lequel on se posait quand on prenait la pause au soleil le midi, qui prenait pas mal de place dans l'atelier. En fait, l'idée, elle est née du désir de faire une pièce avec la machine familiale, la scierie que mon père a restaurée quand j'avais 4 ans, qui est de 1880, qui est la plus vieille scierie de France en état de marche. Donc c'est une bille de bois qui est faite en chêne des marais. Le chêne des marais, donc c'est ce bois qui tombe dans les marais et qui prend cette teinte anthracite par réaction chimique avec le tanin, la vase. Et celui-là a 2000 ans, comme pas mal des chênes des marais, là. Et puis, il avait un caractère très fort avec cette fourche très sculpturale. C'est l'œuvre de la nature elle-même. Donc, il y a eu l'idée de faire un sillage arrêté, donc de faire rentrer la machine dedans à plusieurs reprises en faisant reculer la machine pour avoir comme un effet ressort une fois qu'on écartait ces lattes. Et ces lattes, elles sont écartées par ce qu'on appelle des tringles. Ça sert à faire sécher le bois. C'est habituellement en peuplier ou en hêtre ou en sapin. Cette fois, on les a fait en bronze, ces lattes-là. Pareil, en hommage à notre métier. Et donc, quand on s'assoit, il y a un léger effet ressort. C'est un banc qui fait 4 mètres de long. Et il est complètement en décalage avec ce qu'on a l'habitude de faire chez Arca. Des choses très innovantes, des choses très lissées, bien finies, extrêmement bien exécutées. Et là, finalement, il n'y a pas eu beaucoup d'heures d'exécuter dessus. Et qu'il y a une mode aussi. Qu'il y a une mode d'acheter des objets assez bruts. C'est venu comme ça.
Donc il y a un paradoxe entre le prix auquel se vend cet objet, qui est finalement l'objet de tête avec le moins de R&D par rapport à tout ce que vous faites. Exactement. Et c'est celui qui s'est vendu le plus cher.
Là ici, il y a une pièce en marbre très artistique, surréaliste, avec un matériau innovant, une marqueterie souple qui est au même prix et qu'on vendra pas. Ouais. Pourquoi ? Les gars se plaignent de ce banc qui traîne depuis 3 ans. Ouais, quand est-ce que tu le vends ? Non, faut le brader. C'est un bois qui coûte 10 000 euros le mètre cube. Il a été sorti de terre, il n'a pas été scié tout de suite, il a explosé comme les bois qu'on sort lorsqu'on fait des fouilles archéologiques. Donc il est devenu invendable, moi je l'ai acheté beaucoup moins cher. Et voilà, il traîne. Les gars crachaient pas mal dessus. Et je leur disais, les gars, on parie que si je le vends, vous vous taillez la barbe à la Robert Rue. Et donc là, ils vont tous devoir sortir la tondeuse. Chez Arca, tonte des employés. Ah, je pourrais m'en occuper, ça c'est pas mal.
Bonjour Sophie Lacroix.
Bonjour.
Quel est votre métier ?
Et je suis tisserande et brodeuse.
Et pourquoi vous êtes sur ce stand de culture et diversité ? Comment c'est arrivé ?
Alors, je suis ici avec 4 autres co-exposants aujourd'hui sur ce stand Fondation Culture et Diversité, car nous avons participé à un programme qui s'appelle Voyager pour apprendre les métiers d'art et qui permet à des jeunes étudiants en diplôme des métiers d'art, à la fin de leurs études, quand ils sont boursiers, de partir à l'étranger se former pendant 4 mois à une technique spécifique.
Waouh ! Et vous êtes partie où ?
Je suis partie en Inde.
Vous étiez dans quelle école ?
Alors j'étais au lycée La Source à Nogent-sur-Marne. Là, j'étais aussi passée par le lycée Gilles Jamin à Rochefort pour le DMA Broderie-Or. À la suite de ce DMA-là, j'ai eu la chance de postuler à ce programme et d'être reçue. Donc ça m'a permis de partir en suivant à Mumbai. J'ai également eu la chance d'aller à Jaipur pour pratiquer l'impression au bloc de bois sculpté sur tissu. Et en revenant, j'ai continué à me former au lycée La Source à Nogent-sur-Marne pour apprendre le tissage.
Vous pouvez me décrire votre œuvre ? Racontez-nous.
Bien sûr, avec plaisir. Alors mon travail qui est présenté aujourd'hui, il s'agit d'un quatuor de pièces tissées et brodées. Donc on est vraiment dans un dialogue intime entre tissage et broderie. Les deux savoir-faire vont se confronter. Le geste également va évoluer car je tisse ma matière et en même temps j'introduis la broderie dans le format. Mes matières à tisser vont devenir matières à broder et vice-versa. Mes matières à broder vont venir s'insérer dans le tissage au fur et à mesure pour former une seule et même technique, une seule et même surface. Et c'est également un hommage en 4 parties aux nuits de Mumbai, à leur vibrance, à leur côté éclatant, extrêmement foisonnant et lumineux.
Merci Sophie Lacroix.
Avec plaisir, merci à vous.
Bonjour Laura Pétier, vous êtes chargée de mission à la Fondation Culture et Diversité. Vous pouvez nous expliquer la vocation de cette fondation ?
Oui, donc elle vise à accompagner des jeunes qui sont issus de milieux modestes à intégrer les grandes écoles de la culture à travers différents programmes égalité des chances qu'on mène dans
tous les secteurs artistiques et culturels. Et ce programme-là en particulier, Voyager pour les métiers d'art, s'inscrit plutôt dans une démarche post-études, donc après leur diplôme, pour les aider à s'insérer professionnellement. Et il s'adresse à des jeunes boursiers diplômés en métiers d'art.
Vous avez aussi des programmes pré-études pour financer les études elles-mêmes ?
Oui, on les accompagne financièrement et de diverses manières pendant les études, en effet. Et avant les études, en fait, à les préparer au concours de ces grandes écoles, à travers des stages égalité des chances notamment.
C'est merveilleux, mais quel bonheur de vous découvrir ici.
Bah, merci beaucoup. Et c'est un vrai accompagnement de long terme qui commence souvent au lycée, pendant l'école et ensuite... comme ce programme-là, pour les insérer sur le marché du travail.
Donc Fondation Culture et Diversité, on peut aller sur votre site internet pour candidater ?
Oui, vous avez toutes les informations qui sont régulièrement mises à jour lors de nos appels à candidature qui sont très fréquents.
Et qu'on relaiera évidemment à partir de maintenant sur le compte Instagram du Craft Project.
Merci beaucoup en tout cas.
Bonjour Jérémy Leloutre.
Bonjour.
Au dernier podcast que j'ai fait à Homo Faber, c'est Jérémy qui nous a fait la médiation culturelle. Donc Jérémy, on se retrouve dans les allées du Salon Révélation, sur le stand de la Fondation Culture et Diversité, et vous me racontez que vous en avez profité.
J'en ai profité, oui, très jeune, à 16 ans. J'ai fait partie des jeunes sélectionnés par la Fondation Culture et Diversité dans un programme qui s'intitulait « Égalité des chances en école d'art et de design ». Et j'ai pu bénéficier d'intervenants pendant un an et d'accès à des musées et à la culture venant de zones d'éducation prioritaire. Et c'est cette fondation qui m'a permis de rêver, en étant jeune banlieusard, de pouvoir m'inventer et inventer mon lendemain.
Magnifique. Et comment vous en avez entendu parler ?
J'étais en école à Montreuil, en bac art appliqué, STD2A, en zone d'éducation prioritaire. Du coup, c'était la mission aussi de la fondation, c'était d'aller chercher des jeunes avec... des rêves.
Ils sont venus dans votre école ?
Ils sont venus dans notre école et ils ont fait profiter ce programme à une vingtaine de jeunes, en tout cas l'année où j'ai pu faire partie de ce groupe. Et l'idée, voilà, c'était d'accompagner pendant un an ces jeunes à travers des workshops au sein des écoles parisiennes comme les Beaux-Arts ou les Arts Déco ou l'ENSI, et de nous faire visiter des musées avec des médiateurs culturels et du coup de nous offrir un accès à une culture qui n'est pas forcément aisée quand on vient de zones un peu défavorisées, ce qui était mon cas.
Et on vous retrouve en tant que médiateur culturel 15 ans après.
La boucle est bouclée. Le bonheur de partager, voilà.
Merci Jérémy. Cet épisode du Craft Project a été produit par Métiers Rares. Métiers Rares est un studio de craft thinking qui met l'intelligence des métiers d'art au service des maisons d'excellence. Il a été réalisé par Philippe Calvérac. La musique a été composée par Velvet Stairs. Si vous avez aimé cet épisode, dites-le nous avec 5 étoiles et un gentil commentaire sur Apple Podcasts. On aime aussi vous lire sur Instagram, sur le compte the.craft.project.